Moment très particulier de l'écriture dans la cure, celui des notes de séance, ou plutôt des notes après la séance, est original. Ces écrits, brefs, décalés, souvent jamais relus, fragmentaires, voire mal composés, sont précieux, mais de quel mouvement sont-ils les témoins? Ils évoluent en marge avec peu de visibilité. On serait presque tenté de les nommer écriture griffée, car si éloignée d'une élaboration. Un récit de rêve, une trouvaille de la pensée, une remarque incidente, une association, bref, ils se rangent sous la rubrique des rebuts et des laits qui, une fois la marée de la séance retirée, parsèment le rivage psychique. L'écriture savante de l'analyste est tout autre, car celle-ci s'apparente à un travail intellectuel qui passe par la construction et la mise en perspective. Avec les notes, on demeure dans la répétition des commencements de l'écriture et même de la lecture, comme si chaque patient et chaque séance amenaient avec plus ou moins d'acuité ses questions initiales. Face à la répétition, la parenté avec Sisyphe est évidente, mais il faut bien commencer. Quand j'ai été sollicité pour écrire sur le thème, la seule écriture de psychanalyste que j'ai pu convoquer avec ses balbutiements était la mienne. Je dois d'ailleurs à Daniel Videlocher de m'avoir un jour posé une question initiatrice. Votre écriture exprime-t-elle une pensée présente en vous ou écrivez-vous pour vous comprendre? J'ai alors mesuré que mon activité se situait plutôt sous la seconde configuration, celle où les mots sur le papier donnent une assise et une trame aux pensées qui permettent ensuite une lecture, écrire pour se lire. Le regard de celui qui écrit s'origine d'un lieu. La représentation topographique instaure un point à partir duquel la parole engage une théorie des lieux. Écrire à partir du plus confus et du plus trouble, voire du plus aphasique en soi, pour atteindre secondairement quelque endroit plus sûr où poser le pied, pourrait être un des projets de l'écriture qui suit la séance, cette expérience temporelle singulière qui voit deux mois se toucher, se fondre et s'éloigner sans forcément se rencontrer. Mais connaissant la polymorphie du moi, on devine que les moi conscients et inconscients démultiplient les rencontres, côté patient comme côté analyste. De cette proximité limitée dans le temps de la séance, que reste-t-il? Souvent des pensées se sont frayées un chemin, puis sont devenues plus accessibles, mais parfois ce sont des mots qui, couchés sur une feuille de papier, livrent solitaire, une trace, un bref rappel. Nul esthétisme. Nulle poésie n'accompagne ces phrases échappées au refoulement et à l'oubli. Elles déambulent en lisière ou surnagent en surface. L'écriture première de l'analyste, c'est avant tout cela, une nécessité qui conduit vers un crayon et un papier et qui n'est pas sans rappeler la gravité du geste premier de l'homme de Lascaux sur une paroi. Plus tard, ayant retrouvé ses esprits et un cours plus lié de sa pensée, le psychanalyste se tourne vers la table d'écriture où il aura alors à sa disposition des processus secondarisés. Le texte que je vais continuer va s'organiser autour de deux pôles. Le premier va être un parcours en deux temps, qui va être un parcours de ma rencontre avec l'écriture depuis les temps où j'étais étudiant en médecine. Et le second va être un temps où je vais vous livrer finalement quelque chose qui s'apparente au sujet même, c'est-à-dire plutôt des notes. Je vous indiquerai la rupture, parce qu'il y a une rupture dans l'écriture, et je veux ménager l'auditeur, donc je signalerai, attention, à partir de là, vous allez commencer à peut-être être... faut écouter d'une autre manière que la première, qui est une manière beaucoup plus aisée, vous le verrez. Avant d'être psychanalyste, il fut étudiant en médecine. Pendant longtemps au lit du malade, s'est exercé un apprentissage de la clinique médicale, mais aussi de l'écriture. Aussi surprenant soit-il, la rédaction de l'observation fut un passage obligé dans la formation médicale, héritier d'un regard naturaliste dirigé vers le patient. Cette rédaction était suivie d'une lecture à haute voix, et là je cite celui qui va m'accompagner pendant un temps, qui est Jean Reversy, médecin et romancier lyonnais, qui a beaucoup écrit sur le milieu médical. Je le cite, « Avec des airs de greffier, un étudiant lisait l'observation du malade que l'on examinait à loisir. Au pied du lit, en présence du patient, du patron et des autres médecins, externes et internes, ainsi que du personnel infirmier, le plus souvent féminin, nous étions, dit Reversy, 50 dans la suite du professeur. À l'issue de cette présentation, le patron dictait son mot en reprenant de manière éclairée le débat diagnostique et il orientait ensuite la marche thérapeutique. Cette scénographie se reproduisait à chaque lit avec la solennité du rituel. La rédaction de l'observation obéit à des règles simples, proches de l'art photographique. Situer, donc cadrer le sujet, puis accommoder. Du plus loin au plus près, de la superficie à la profondeur et du passé au présent. Je cite, « Le dialogue du médecin et du patient obéit aux lois qui régissent le dialogue de tous les êtres pour forcer l'invisible obstacle qui les sépare. » Fin de citation. Établir d'abord une perspective par le motif de la venue du patient, puis remonter au loin dans le temps, exposer l'anamnèse et les origines des mots, présenter l'actualité de la plainte et poursuivre par l'examen clinique. Celui-ci part du plus superficiel, ce qui se voit, et ensuite de ce qui s'explore et qui conduit au toucher du corps, en surface, à la palpation, à l'auscultation, puis éventuellement, si besoin, à une exploration des orifices. Ensuite, une fois cette approche effectuée, les divers organes et les fonctions sont répertoriés et le tout donne lieu à la rédaction. Le raisonnement se dirige vers ce que l'on élimine et vers ce que l'on retient pour se clore sur des propositions d'examen complémentaires et des suggestions thérapeutiques. Cet exercice ritualisé participait de l'apprentissage du raisonnement médical. Il était autant une initiation qu'une manière de transmission d'une méthode où voir, ou tenter de voir, était au centre. Voir le corps, certes, mais voir son fonctionnement et même voir l'âme, car les mots de l'observation étaient tendus vers les fonctions d'explorer puis d'imager. Les secrets, les réticences et les silences participaient aussi de la connaissance du patient au sein de ce colloque singulier. Et ceux qui savaient écouter faisaient remarquer les omissions ou les contradictions contenues dans le récit. Depuis le premier service de radiologie d'Antoine Béclair en 1897 à nos jours, divers appareils optiques ont fait reculer les zones muettes de l'invisibilité et désormais on peut voir l'intérieur du corps et même en mouvement. D'aucuns esprits, en rien chagrin, diront que la modestie des thérapeutiques laissait du temps aux praticiens pour peaufiner son amour nosographique dans des descriptions détaillées. Mais les géographes et les entomologistes ont eu aussi une longue période descriptive nécessaire à l'établissement de leur discipline avant que d'autres, historiens, anthropologues ou ethnologues, ne s'intéressent aux mouvements et aux conditions d'existence des populations. Deuxième petit temps, avant d'être psychanalyste, il fut psychiatre. À quelques centaines de mètres de l'hôpital universitaire, l'hôpital psychiatrique imposait un univers bien différent, étayé sur une géographie très organisée. Il n'était plus l'asile, pas encore le centre hospitalier spécialisé, en quoi ? Il était l'HP. Une longue allée avec de part et d'autre les maisons des médecins, au fond la chapelle, et une répartition entre les bâtiments réservés aux hommes, aux femmes, aux agités et aux calmes, aux pauvres et aux riches, et au loin, dans un coin, les enfants. Franchir la porte, comme externe, de la deuxième division des hommes, dite la deuxième homme, ce n'est qu'en écrivant ces mots que j'ai eu un choc, en entendant la folie et la dérision de cette nomination la deuxième homme. L'errance et l'inactivité régnaient. J'y sentais des effluves inqualifiables, où les fades odeurs alimentaires rejoignaient des remules corporelles imprégnées de tabac, le tout évoluant dans un univers de réclusion sombre et gris, où parmi un brouhaha et des invectives tintaient les clés des infirmiers. Surprise, les dossiers des patients étaient pour la plupart vides, comme en déshérence. Pas d'histoire clinique, quelque rare et désuète information émergée sur les antécédents, vient de tel hôpital, sur la situation médicale, grippe espagnole, syphilis, tuberculose, alcoolisme. Ces maladies appartenaient à un passé lointain, proche du 19e siècle. Puis de temps à autre, des notes montraient que quelqu'un était passé et s'était intéressé aux patients. Ces lignes complètement anachroniques évoquaient alors un bilan en cours, une hospitalisation en médecine, une visite, la mort d'un parent, une vaccination. Ces notations isolées tombaient là, insolites, comme égarées, sans exploitation ou commentaire. La parole du patient n'était jamais présente, seule l'immensité de sa solitude était perceptible. L'effacement et les blancs signalaient les vies oubliées, modeste et silencieuse. Vie minuscule, pour paraphraser Michon, pourtant bien réelle. Fini les envolées diagnostiques ou les hypothèses hardies sur la symptomatologie, foin des bilans complémentaires à envisager, Seuls les crépuscules construits par la maladie mentale éclairaient à contre-jour le dossier, vestige de l'immuable répétition du temps et trace de multiples abandons. Dans ce contexte, Jacques Hockmann, dont l'effervescence dans ces années a été précieux pour moi, il a écrit un ouvrage qui fut célèbre en son temps, Pour une psychiatrie communautaire, qui a donné de l'espoir aux étudiants d'alors. Au cours de réunions cliniques qu'il animait dans son service, l'externe puis l'interne que j'étais, furent sensibles aux articulations proposées entre la pathologie du patient et son histoire, autant celle de sa famille que de celle de son réseau social. Première anecdote que je ne peux pas ne pas vous raconter, qui fut pour moi absolument inaugurale, c'est un patient psychotique qu'une famille de patients psychotiques que Hockmann soignait, et on est pendant la guerre des six jours. Et il nous avait raconté cette histoire clinique en mettant en scène, en faisant une correspondance entre la situation clinique de cette famille où la psychose régnait en maître, et en même temps la guerre des six jours qui se déroulait à ce moment-là et qui avait une influence sur cette famille d'origine arabe. Et pour moi, qui écoutais une possibilité de représentation de la folie, ça a été quelque chose d'absolument important. Et qui a pratiquement introduit une première grille d'élaboration qui sortait du monde médical. Et donc je l'ai appliqué ultérieurement à certains patients dont la folie m'apparaissait être en écho avec une histoire sociale exceptionnelle. Ainsi, tant pour réunir mes collègues soignants d'alors que pour donner sens au travail thérapeutique, je me lançais par nécessité dans l'écriture de textes courts, qui ne furent jamais publiés, et sensibles, sur deux patients. La première patiente était une jeune fille délirante, ancienne boat people, venue du Vietnam via les USA, et l'article s'intitulait « Au pays des merveilles de Juliette », en référence d'une part au prénom de la patiente, qui était son vrai prénom, et en écho au titre éponyme de la chanson d'Yves Simon, alors en vogue. Quant à l'autre patient, j'avais intitulé son titre « La ferme des trois marteaux », du nom qu'il avait donné lui-même à son domicile partagé avec son père et son frère. L'un et l'autre texte, premier écrit finalement de ma part, ce que je pourrais écrire les écrits péchés de jeunesse, avait une forme narrative qui les rattachait à des nouvelles un peu écrites à la manière de Maupassant, mais il restait fidèle à la démarche de l'observation médicale. Dans ces histoires, il existait déjà une part rêvée qui engageait la subjectivité de celui qui écrit. Je ne parlais pas alors de transfert. Tout fragment clinique, en effet, engage ce débat sur la véracité du propos quand celui qui écrit parle du patient en le nommant « il ». On peut se demander si ce « il » est vraiment indépendant ou s'il n'est pas au moins en partie infiltré par un « je », mais qui ne dit pas son nom. Un « je » qui se cherche et infiltre en douce le « il ». À partir de ce « je » peut surgir une autre figure, celle d'un « ça », qui serait ce que le patient a projeté en la psyché de l'autre et qui se dévoile comme fantasme. Repérer puis nommer cet hôte étranger, le fantasme, appartient au travail d'analyse, mais ça c'est une autre histoire. Pour moi qui suis en ce moment la particularité chronologique, ceci étant, je viens de terminer, hier soir, un livre absolument étonnant d'un auteur espagnol, dont je vais écorcher le prénom, je m'excuse, je crois que c'est Javier Cercas, mais voilà, qui s'intitule « L'imposteur », qui à partir d'une histoire entre guillemets vraie, ouvre tout à fait un débat étonnant sur le rapport entre la fiction et la vérité, qui peut tout à fait nous intéresser, nous, dans cet entre-là qui fait qu'à la sortie, il y a un produit d'un objet qui s'appelle un livre, dont on serait bien mal à l'aise de savoir s'il est un roman ou un récit. En tout cas, la question du jeu transférentiel existant entre le thérapeute et son patient mérite d'être posée. Mais à cette époque, il n'était pas encore question de penser ainsi pour moi. Tout au plus existait le sentiment qu'écrire s'imposait, comme une nécessité aux origines alors inconnues. Il me faudrait découvrir plus tard que l'apprenti historien, clin d'œil à Pierre Aulagnier, qui raconte l'histoire des autres, se raconte pour partie à travers l'autre. Cette dimension est souvent oubliée dans le récit clinique, ou tellement ressentie qu'elle peut en inhiber l'écriture. L'analyste en séance écoute donc avec et dans sa langue, convoquant implicitement son passé et la richesse complexe de ses réseaux de signifiants. Depuis les racines des mots et l'étymologie jusqu'à la mémoire des événements ou des sensations, se constitue un formidable lieu vivant de mémoire. en proposant qu'un tableau ne peut être interprété que dans la langue du peintre, Pascal Quignard insiste sur le fait que l'interprétation s'appuie sur ces arrière-plans qui se juxtaposent, se croisent ou se télescopent. N'est-ce pas d'ailleurs le génie de certaines productions humaines, écrites ou picturales, que de faire jaillir de la parole sans que l'épuisement du commentaire n'en éteigne la source ? À partir de maintenant, ce propos va quitter insensiblement la cohérence que lui donnait le parcours chronologique du temps de formation. Pris par son objet, il devient soumis à une associativité et à des digressions, somme toute pas très éloignées des notes éparses qui suivent les séances. Pierre Fédida, Belle rencontre, parlant du frayage vers le devenir conscient des restes de perception, écrit « Une certaine activité de l'analyste se traduit par des notes de séance ou toute autre expression écrite hors séance. Ce sont les cahiers de la nuit, qui ne sont peut-être pas destinés à être relus, ou en tout cas, qui seront soustraits à toute lecture tierce et qui seront voués au feu. » Des moments d'insatisfaction surnagent après l'événement que fut la séance. Parfois, revenir sur les lieux, être attentif aux irritations demeurées en souffrance, comme on le dit des colis mis au rebut, est nécessaire. Écrire après coup serait une manière de reprendre la main, de retrouver un visage perdu durant la séance. Si certaines séances suscitent de la sidération, de l'excitation, de l'assoupissement, d'autres imposent impérieusement la constitution d'une trace, l'écriture. Chercher un miroir qui unifierait des perceptions disparates deviendrait-il la tâche réservée à l'écriture, comme une quête de retrouvailles, d'images unifiées. Il y a cependant quelque complaisance ou vanité mal placée à se pencher sur l'écriture du psychanalyste. On peut regretter la spontanéité du parler, préférable à la maîtrise d'écrire, et d'aucuns, plus légers ou confiants, privilégient la parole à voix haute, bien qu'il soit dit que tel l'oiseau, elle s'envole. Avec l'écriture, et le débat est ancien, on ne sait jamais si elle favorise l'oubli ou si elle conserve, si elle n'est pas simulacre comme le tableau de peinture l'est au regard de la réalité. Pierre Fédida suggère que l'écriture se construit à partir de l'activité de glaner ou d'émonder. Ce sont des reliefs, des laissés-pour-compte qui inspirent. Ces accros du psychique produisent l'envie d'écrire et composent l'effet zégarnique qui dit que l'on se rappelle surtout ce qui reste inaccompli et que ce qui est réussi est oublié. Pierre Bergougnou en parlait ainsi de l'effet zégarnique. « Je me rappelle surtout les commencements, les jours interrompus, le pays perdu. Écrire est encore une façon d'agir la suite, fut-elle amère, distante, détournée, de ce qui n'a pas trouvé sa résolution. » Il est sans doute souhaitable qu'un rapport lumineux à la connaissance ne s'établisse pas trop vite. L'écoute de l'analyste affiche une gageure, offrir à l'autre la possibilité d'exprimer, malgré la douleur, hostilité et frustration à l'égard d'objets d'amour qui ont chu et failli. Indéboulonnable, il demeure. Faire vaciller les attachements premiers ne peut s'effectuer sans risque d'une menace interne. L'analyste ne sort donc pas indemne de ce combat, non pas sa personne bien sûr, mais ses aspirations élevées qui ont éprouvé la contradiction et ont dû se taire pour laisser le patient trouver sa route. Emporte la trace des mots qui, poussés par les affects, errent après une séance. Ils conduisent vers la table, laissant apparaître ce qui aurait pu être formulé ou advenu et qui ne le fut pas durant le temps de la séance. Je prendrai un temps autour de ce qui s'est passé de mon côté au décours d'un travail. Il me revient donc en mémoire cette patiente. La fin des séances se profile à son initiative. Depuis le début de la cure, elle a souvent évoqué son malheur d'enfant, toujours d'un ton distancié. « Mon père était schizophrène », évoque-t-elle de manière blanche. Un peu comme on parle d'une écriture blanche en littérature, une écriture qui nomme les faits, mais qui barre tout commentaire ou surgissement d'affect. Les bizarreries de comportement de celui-ci l'ont tôt intrigué et ont installé son discours qui nomme les choses, mais de loin, sans laisser place aux émotions. Repliée autour de sa mère et de son frère, elle s'est tenue à distance de ce père aimé, au comportement grandiose, voire bizarre, comme la fois, ou je devrais dire les fois, où il lui a montré un petit carnet rempli de dessins et d'images pornographiques, son carnet chinois, disait-il. Le transfert est pris dans une contradiction, avec à mon égard un reproche lancinant. « Vous ne me dites rien et je ne peux rien échanger avec vous. » Surtout, ne croyez pas que je transfère sur vous. » Ce jour-là, j'ai souligné le fait que notre relation s'organisait autour d'événements qui n'avaient pu avoir lieu et qui demeuraient en attente de réalisation. Ce propos énoncé impérieusement, trop bien sûr, discrètement sur un ton agacé, fut-il entendu. Bien que prudent, j'avais évolué vers l'idée qu'elle souhaitait activement conserver en secret l'image d'un père exceptionnel, pour secondairement et activement l'écorner, mais sans quitter cette image, avec un jeu de la maîtrise à sa convenance, dans un jeu de présence absente qu'elle dirigeait. La plainte régulière disait que mes mots ne convenaient jamais, demeuraient inadéquates et participaient de la déception entretenue à l'égard de la cure. Elle reproduisait des aspects inadéquats de la relation au père, mais de cela, il ne fallait pas en parler. Les notes d'après-séance égrenaient une plainte, la mienne, écho de la sienne. Dans la première composition de ce texte que j'ai en main et que je vous livre, je l'ai fait lire à deux amis lecteurs, et qui m'ont incité l'un et l'autre à repartir vers mes notes de séance que, fidèle au propos de Fédida, je destinais au feu et pas du tout à la relecture. Et je suis reparti vers les notes. Et mes deux amis m'ont dit « Tu devrais dire, gens qui vont écouter ton texte, de quoi étaient faites tes notes ?» Alors je suis reparti vers ces notes que j'ai relues. Ça m'arrive jamais de relire les notes. Et extraire des fragments. Je vous les communique. Ils sont tellement répétitifs que je ne vais pas en livrer beaucoup parce qu'ils disent à la fois des mots et plutôt une tonalité qui se retrouve assez régulièrement. Je cite. Elle campe une petite fille bien élevée, toujours dans les clous. Eau de rose, exquise banalité. Et pourtant, elle m'a dit qu'elle n'avait encore rien dit. Elle veut transformer son analyse en supervision. Là, les notes reprennent en un arbre stylisé. Ça a été une rare séance. Les associations de cette séance, j'ai dû être très attentif. Donc, sous forme d'une espèce d'arbre, j'avais dessiné la séance, la temporalité de la séance. Et c'est la première fois, cette séance-là, où elle a parlé d'un événement assez étonnant dans sa vie d'enfant. J'avais évoqué ce jour-là des enfants gravement déprimés. Avec l'idée que, dans mon évocation des enfants gravement déprimés, elle avait pu partager une telle expérience d'un enfant gravement déprimé. Mais je n'avais pas été direct. Il existe des enfants gravement déprimés. Et elle avait associé directement sur son état de petit mal épileptique. Là aussi, c'est une drôle de formulation, hein, le petit mal épileptique. Il s'en était donc suivi une ligne associative sur cet état, apparu comme souvent vers les 8 ans, où elle avait des absences, qui avaient nécessité bilan d'épilepsie classique, médicaments, et ces absences étaient importantes parce qu'elles rejoignaient un événement dans la cure, qui dure d'ailleurs, puis c'est une cure qui se termine mais qui est toujours là, c'est-à-dire quelqu'un qui avait tout à fait intégré, disons, les conditions coutumières de la rencontre analytique, sauf une. Le paiement des séances absentes. Malgré la manière dont j'ai pu le dire clairement, à tel point qu'à l'heure actuelle, j'évite, afin de ne pas déclencher une espèce de réaction un peu trop vive, je laisse ça évoluer. Elle vient, mais de temps en temps, il y a quand même des absences. Elle ne peut pas payer les séances absentes. Et j'ai pas encore pu le relier à la question du petit mal épileptique, c'est pour ça que je laisse les choses pour l'instant en suspens. Donc c'était la manière non langagière dont je crois il y a une incarnation dans la cure, une actualisation de cet état de petit mal qui a disparu, comme c'est souvent le cas, quand les enfants deviennent des jeunes gens, c'est-à-dire... La lecture que j'en fais, c'est-à-dire quand il s'ouvre à la fois l'expérience de devenir jeune gens, c'est à la fois du côté d'avoir une sexualité de type adulte et aussi de quitter le milieu familial. Donc les séances continuèrent aux prises avec une certaine morosité suffisamment forte pour que l'écriture me permette de donner asile aux forces destructrices passives. Ainsi, avec des mots brefs et incisifs, quelques notations rapides, je pouvais comme lui parler après la séance, à défaut de pouvoir le faire pendant. Je notais en effet, je me recite, il y a quelque chose entre nous et ça ne fonctionne pas. Je ne la sens pas. Parfois, j'écrivais une représentation de son lien aux hommes, à ses hommes, son père, son mari et son fils unique, en notant, par exemple, si le père l'avait excité avec son carnet, elle avait dit qu'avec son mari, les relations étaient devenues rares depuis la naissance de son fils, désormais âgé de 17 ans. L'insistance de mes amis m'a fait découvrir que cette écriture, d'une part, reproduisait le geste séducteur des carnets, dans la mesure où j'aurais aimé qu'elle puisse lire mes notes. Pour se comprendre là, j'aurais aimé lui montrer mon petit carnet chinois, en somme, où j'estimais que mes mots ne passaient pas, mais que de plus, cette écriture me permettait de prolonger des associations et de les figurer, ce alors que dans le cours de l'analyse, j'y arrivais difficilement. Toute cure est menacée d'un enfermement qui s'établit insensiblement. Peut-être que ça rejoint ce dont parlait Catherine tout à l'heure, qui est le sentiment de solitude, quelque chose qui enferme, et construit une foule à deux dont l'écriture est un échappatoire. Cette femme s'était constituée dans nombre de choix de vie selon un paradoxe. Être géographiquement loin de son père, certes, mais rester avec lui pour le comprendre. Et ça s'est manifesté par les études qu'elle a faites. Commencer par être puéricultrice, infirmière, psychologue, avec une soif de comprendre. Et entre les deux, si peu d'espace pour apprécier le dérangement sexuel contenu dans cette tension. Insensiblement, j'ai écrit et fixé sur le papier des notes pour sortir de l'isolement et pour noter des ébauches de pensée. C'est construit sur le papier un espace, lieu des échanges, qui ne pouvait avoir lieu en séance. Quelque chose qui est un latéral. Puis au bout d'un moment, arrivé de deux petites découvertes, celle que le père aimait était source d'une grande curiosité, et qu'il avait été nécessaire que cette écriture soit établie pour qu'il surgisse du refoulement. Je me rendis compte que cette écriture avait comme premier destinataire la patiente qui refusait mes mots. Dans ce cas précis, c'est elle vers qui ces mots sont adressés. Il fallut qu'elle manifeste son souhait de clore les séances, de s'absenter, pour que des éléments du puzzle se mettent en place et qu'apparaissent des fragilités et des hostilités véhiculées dans le transfert qui accueillait depuis le début son ambivalence. En se détachant, c'était son souhait, elle est passée de deux séances à une séance, elle pouvait désormais voir dans la cure un élément du dispositif qu'elle-même avait inventé. En supprimant une séance, elle pouvait désormais regarder son emplacement vacant comme un vestige de l'analyse dans son analyse. C'est-à-dire la question de l'absence se redondait au sein même de la place vestigiale de la séance désormais close. Dans cette cure, l'écriture de notes instaurait après coup un échange qui ne pouvait s'établir en séance. La décharge motrice pouvait s'exprimer, c'est le côté griffé, car une visibilité pouvait s'établir là où les choses étaient demeurées muettes. À dire vrai, j'ai quelques scrupules à nommer écriture, ce qui fut si souvent des suites de mots ou de phrases non liées en un récit, comme autant de graffitis de jamais relus. Certaines écritures permettent l'établissement de conditions pour penser, un peu comme un peintre fait des croquis pour soutenir une vaste réalisation plus ambitieuse, mais qui sera différée dans un second temps. Et parfois l'analyse n'est pas convoquée pour délier les souvenirs d'enfance, fussent-ils douloureux, mais sa présence est utilisée pour que se maintienne le mausolée secret des amours tues. Interpréter, c'est-à-dire mettre des mots sur la chose et établir des correspondances, éveille pour le patient, ou moins pour certains, un danger spécifique, celui d'un dévoilement, suivi de la peur d'une disparition. On tient en somme à la création névrotique que la névrose fabrique. La nécessité d'écrire pour l'analyste est le produit de cet empêchement. On pourrait dire que l'empêchement, il ne peut pas faire son métier, qui bâillonne un temps sa parole. Écrire, est-ce alors découvrir ce que le patient ne veut point entendre? La violence du silence imposé, la frustration de la colère tenue en laisse sont là, et l'écrit qui suit vient, autant rageur que désespéré, et tente de dépasser l'empêchement de l'écoute. Est-ce là une manifestation spécifique de la solitude de l'analyste? Si je pense au texte dont j'ai parlé au début de ce propos, à leur manière descriptive de présenter les vies des patients, je mesure que le point d'ancrage de l'écriture et de l'écoute fut tout autre avec cette patiente. L'écriture a jailli comme une nécessité impérieuse pour que le travail thérapeutique se poursuive, et les fragments ont permis le surgissement d'un refoulé troublant autour de l'amour édipien et mis en évidence du moins son souhait de maîtrise. Sans l'écriture, sans ce relais latéral, un rapport de force aurait maintenu le silence sur cette dimension passionnelle. En somme, le graffiti a délié la mémoire. Il est possible que cette patiente soit habitée par une théorie très différente de celle mise en place dans mon écoute. Son attachement aux objets réels de son passé ne pouvait être reconnu en séance et elle me prêtait, elle, en revanche, une théorie qui supposait la traque de l'amour de son père. Je dirais que la question de la traque de l'amour édipien, elle en savait quelque chose, au moins intellectuellement, et elle savait très bien que c'est de ce côté-là que je guettais. Et donc, d'où sa phrase, mais vous savez, avec « je ne transfère pas du tout sur vous ». Alors même que j'étais devenu plus attentif aux effets sûrs et dans la langue de son histoire infantile. En somme, une double méprise est inscrite insidieusement dans cet égard entre nos deux théories. Pour l'analyste, une production spécifique de l'analyse s'appelle la pensée métapsychologique. Et c'est elle qui a progressivement établi sa présence au décours de l'œuvre freudienne. C'est une pensée qui accueille les productions théoriques de l'analyste et lui permet de figurer le fonctionnement psychique du patient en se dégageant en somme d'un approche premier autour de la psychologie. Ainsi sommes-nous conduits insensiblement à constater que la métapsychologie s'est inscrite comme un lieu spécifique qui protège la cure d'un excès de pathos et offre une théorisation de la complexité du jeu entre pensée consciente et fulgurance inconsciente. Chaque écrit analytique possède la particularité de naître à partir de l'actualisation du transfert. Il est le produit de cette expérience qui conduit ensuite, secondairement, l'analyste à la table d'écriture. Des idées naissent au contact de la résonance d'une autre parole, dont l'écriture se fait alors écho, répétant un déplacement proche de celui de l'activité psychique en séance. Le lieu de naissance des écrits est un entre-deux, d'où émergent différentes pistes qui, de l'énoncé du sensible aux constructions théoriques, poursuivent le devenir des pensées incidentes, conscientes et inconscientes. Le problème est de saisir l'évolution de ces pensées. Si l'enjeu dans cette écriture demeure d'ordre métapsychologique, comme un texte nourri de l'expérience de la cure, comment un texte nourri de l'expérience de la cure devient-il analytique ? Les qualités dites littéraires du texte ne peuvent pas être seules mises en avant, car tel n'est pas le but d'un texte analytique, même si la quête du mot juste et vrai est nécessaire. En effet, la clinique l'influence au point que celui-ci est composé sur le mode même de l'écoute du cas. Et le texte reproduit les balbutiements comme les thèmes, mais de plus il vise à en expliciter les effets. Dit d'une autre manière, qui concerne autant le style que la pensée, si la destruction impose sa violence dans le transfert, l'écrit alors sera lui aussi traversé par les affres de la violence présente dans son style comme dans son élaboration conceptuelle. L'inconscient qui court dans l'échange durant la cure va à son tour coloniser la construction de la pensée du cas. Je cite de nouveau Pierre Fédida. À la différence d'un discours philosophique, le texte métapsychologique recueille cette prise en considération du figurable à l'instar de l'écoute flottante de l'analyste dans la cure. Un texte n'a sa force et sa vérité finalement qu'à partir du cas dont il parle. Il n'a pas une visée générale, ça serait l'ensemble des textes qui pourraient donner une idée de la conceptualisation globale de l'analyste, mais le texte est sous-tendu par le cas dont qu'il va être explicité. Parfois, il y a des cas cliniques qui sont peu explicités, mais qui sous-tendent l'écriture, même s'ils ne sont pas dits longtemps. Mais en somme, ils sont inspirés par un cas dont ils sont porteurs autant des formes en positif qu'en négatif. C'est un petit peu la manière, je suis en train de me rendre compte que comme j'ai terminé la lecture du texte de Jean-Claude Rolland ce matin, c'est un peu ce qu'il évoque quand dans son texte il a fait le commentaire des débatteurs présents dans « On bat un enfant ». Il y a les débatteurs, il y a le cas clinique, sans doute Anna, et c'est donc on voit comment ce texte est construit par strates de différentes présences. Pour Pierre Fédida, déplacement et transfert doivent pouvoir manifester leur présence pour qu'un texte se maintienne comme métapsychologique sans la fixité du texte philosophique. La métapsychologie n'est pas une Weltanschauung. Un texte analytique doit rendre compte des changements de lieu. C'est pour ça que la théorie des lieux dont parle s'appuie si souvent Fédida m'apparaît précieuse. Cette spéculation métapsychologique qui s'appuie sur l'expérience de la cure et se déprend d'un mode de pensée de système est une invention de l'analyse dont la découverte puis son installation ont dérouté plus d'un analyste, y compris Jones. Quand Freud s'aventure là-dessus, du côté de cette mode d'écriture, Jones craint qu'il ne sera pas suivi par les autres analystes, et lui-même en premier d'ailleurs. Cette manière de penser accueille le plus dérangeant et le plus inquiétant de l'écoute, ce qui provient du lointain et de l'archaïque, et dont la présence s'actualise dans le transfert. Il est compréhensible que la violence des passions ne puisse être admise aisément, bien que les poètes en connaissent depuis longtemps l'existence et les effets. La métapsychologie est une tentative pour situer sur un plan scientifique la double vie de l'âme, l'endroit et l'envers du fonctionnement. D'où la nomination par Freud, de manière fréquente, de la métapsychologie comme sorcière, c'est-à-dire comme personnage inquiétant du côté du féminin comme du côté peut-être des traditions occultes. Toute lecture permet une possible conversation avec l'auteur et puisse le plaisir de cette activité se découvrir et longtemps se prolonger. Rien d'étonnant donc que la présence d'un temps diphasé dans l'apprentissage de la lecture. Si durant l'enfance, le temps du décryptage a posé les rudiments de l'usage des mots et permis l'accès aux livres, un deuxième temps a convoqué l'écoute du texte à la recherche de sa parole, présente mais cachée derrière les lignes, un peu comme dans le bloc-notes magique ou dans le palimpseste où un texte latent est présent sous le texte apparent. La relecture, comme activité polysémique, crée un différentiel qui favorise les effets de rencontre. Le lecteur ne souhaite pas seulement être séduit, il exige que l'auteur lui parle, le conduise vers des terres nouvelles, même s'il s'agit de retrouvailles, et qu'il éclaire des parts d'ombre, non sans ambivalence. Lire suppose forcément de ne pas craindre le déplacement, incluant la chute du livre et le désappointement. Certains livres en effet tombent des mains, et cette chute doit être acceptée comme son envers, quand les textes ne vous lâchent plus au point de hanter, textes que l'on pose quand vient la fin, afin de garder encore intact le charme. Quelques instants encore, monsieur le bourreau. Bien sûr, une fois chu à terre, l'ouvrage mérite d'être repris et de bénéficier d'une deuxième chance qui laisse enfin percevoir un intérêt caché, mais caché de prime abord. La lecture d'un texte analytique exige une disponibilité voisine de celle de la cure, une proximité suffisamment forte pour que la lecture s'installe et qu'elle soit suffisamment bienveillante pour qu'elle puisse se poursuivre. Permettre une rencontre par surprise avec le plus étranger de l'autre, comme de soi, est une constante des effets du texte dit analytique, ce qui en constitue sa spécificité. Que cet autre en soi s'appelle le fou, le délirant, l'halluciné, l'enfant, le diable, la femme ou l'étranger, bref, autant de figures qui confrontent le sujet à ses monstres, à ce qui est visible, comme s'il fréquentait les limites de son entendement. Ainsi, la lecture d'un auteur est-elle infinie ? Quand je dis la lecture d'un auteur, ça pourrait être aussi bien nous comme auteurs dans nos notes. Faites de reprises et de retours traversées par l'expérience de l'oubli et celle de la méconnaissance. Dans l'écriture de ces notes, je suis tombé sur un petit bouquin d'Émile Faguet qui s'intitule « L'art de lire » où il dit « Relire, c'est lire ses mémoires sans se donner la peine de les écrire ». Bien qu'utilisé pour la peinture, la formulation de Merleau-Ponty « Le tableau me regarde » fut souvent rencontrée dans les écrits de peintres, en particulier sous la plume d'André Marchand. Je le cite « Dans une forêt, j'ai senti à plusieurs reprises que ce n'était pas moi qui regardais la forêt. J'ai senti certains jours que c'était les arbres qui me regardaient, qui me parlaient. Je crois que le peintre doit être transpercé par l'univers et non vouloir le transpercer. » Fin de citation. Le psychanalyste ne devrait pas se soucier de savoir s'il transperce ou non l'esprit de son patient, équivalent d'un scanner psychique. Car à suivre cette voie, l'écoute serait tentée d'exercer une maîtrise préjudiciable à l'établissement si difficile de la liberté associative. Qu'il se souvienne, l'analyste, que le patient l'écoute également et cherche à comprendre d'où, de quoi et comment il parle. On en parle peu de cette double écoute. Les mots rudimentaires des notes non relues, voire destinés au feu, permettent secondairement l'établissement de développement de pensée, de récits ou de publications savantes. Dans un premier geste, les notes, traces graphiques, montrent qu'une pensée est venue, sans plus de signification que celle de ce passage. Les mots seraient autant de cailloux semés par un petit poussé pour trouver ou retrouver le chemin vers le familier de la pensée consciente. Dans la dyade psychique, une psyché héberge, interprète et soutient celle de l'infance, qui devra, tel est son destin linguistique, quitter cet abri pour ensuite voler de ses propres mots. Du coup, cette familiarité déjà en attente de retrouvailles est celle qui est présente dans la dyade. Chaque cure forge ses outils langagiers spécifiques, car le savoir ancien disparaît comme happé, puis transformé par la nouveauté transférentielle. Et là, ça serait la porte ouverte aux différentes formes de régression, en particulier du mot à l'image. Je vous épargne quelques lignes pour terminer finalement sur ce qui est de nouveau une forme de post-scriptum. Quittons ces notes qui finalement ne furent ni brûlées, ni jetées, mais lues. Toute création doit souvent échapper à des envies de destruction qui sont contingentes de son évolution. L'envie de les détruire, l'envie d'oublier, peut-être l'envie de pouvoir d'aller vers des nouveaux mondes. La proposition de ce thème m'a donc conduit, non sans difficulté et réticence, à innover et à plonger les yeux et l'entendement dans des refoulements, contre-courant des séances, jusqu'à produire secondairement cet écrit un peu plus construit. Et puis les mots s'inscrivent dans la visualisation comme produit d'une transformation. Cette fois, la séance, une séance récente, toujours avec la même patiente, m'a laissé surpris. Car elle me dit qu'elle aime venir en séance. Et que bien sûr, elle pense arrêter. Mais peut-être pas. Mais que depuis le temps, elle a été transformée. Même si je ne suis jamais là où elle m'attend. Alors elle me demande très détendue ce que je vais penser quand elle va partir. Alors moi je lui dis que je ne sais pas les effets d'un événement qui n'a pas encore eu lieu. Et elle sourit et elle ajoute « Ah, c'est bien comme d'habitude, vous ne dites rien. » Et puis je continue de penser que le petit mal, qui est sans doute à la source des séances absentes non honorées, est là entre nous, mêlant les absences. J'entends le petit mal au sens masculin qu'elle n'entend pas. Ce petit mal quand elle était petite, mal, malheur, mal masculin, et que ceci va rester comme un secret sans doute de l'analyse au sein de notre relation. Voilà. Merci.